Bonjour, c'est encore avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour mon émission Alice et vous. Comme vous le savez désormais, chaque vendredi de 17h à 18h, je vous invite à franchir la porte de mon cabinet pour aborder divers thèmes touchant à la psychologie humaine. Et comme à son habitude, Jennifer est à mes côtés pour vous représenter en me posant des questions, cette fois-ci autour du thème des relations toxiques.
Bonjour Alice, heureuse d'être avec vous, de vous retrouver dans cette émission ensemble, Alice et vous. Et oui, on va pousser ensemble la porte du cabinet et ainsi aborder ce thème, nouveau thème de cette semaine, les relations toxiques. Alors on a vu pas mal de choses déjà, on a vu ce que c'était la psychanalyse, on a vu aussi presque la genèse grâce à... Alors comment ça s'appelait déjà,
Alice ? Psychogénéalogie.
La psychogénéalogie, on a vu les thérapies de couple aussi, voilà, très très intéressant. Avec des invités plus qu'intéressants, nous allons désormais aborder ce nouveau thème, les relations toxiques. Alors j'ai envie de vous dire, parce que vous le savez Alice, que vous m'avez traumatisé avec un thème et vous savez déjà duquel je vais vous parler. Est-ce qu'il y a une différence entre les pervers narcissiques et les relations toxiques, ou ça peut se mettre un petit peu dans la case de relations toxiques?
Pour répondre à la première question, oui, il y a une grande différence, parce que lorsqu'on est dans le cadre d'une relation toxique, on n'est pas forcément en lien avec un pervers narcissique. Mais pour vous répondre aussi, si l'on croise un pervers narcissique, nous sommes forcément dans une relation toxique avec lui.
D'accord, c'est pas une obligation que la relation toxique engendre la personne de suite sur un pervers narcissique ou une, hein, parce qu'on a vu aussi que ça pouvait se jouer au féminin. Donc les relations toxiques, on va tout de suite venir sur le thème, qu'est-ce que c'est ces relations toxiques?
Alors qu'est-ce que c'est? D'abord je vais dédramatiser en parlant du terme toxique. Très souvent je me rends compte que certaines personnes ont du mal à identifier et à déposer ce mot-là lorsqu'ils sont dans une telle relation, parce que très souvent on a l'impression que toxique égale diabolique. D'accord. Alors c'est là que je dis attention. Une relation toxique, c'est surtout une relation où il n'y a pas une notion d'équilibre, on va dire. Moi, je dis qu'il y a relation toxique dès qu'il y a une récurrence dans le problème de la limite à l'autre, quand il y a une notion de respect et un besoin de maîtrise dans la relation. Alors, quand je parle de problème de limite, c'est-à-dire que si, admettons, nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voulons pas faire telle ou telle chose et que l'autre insiste et n'écoute pas notre souhait ou notre besoin, si c'est un problème qui est récurrent, qui vient toucher des domaines particuliers, ben là, on peut se poser la question, effectivement, de savoir si on est dans une telle relation ou non.
D'accord, mais alors... Un petit peu plus précisément, je vais vous taquiner parce que je vois pas bien personnellement et je pense que les auditeurs aussi aimeront avoir plus de précision. C'est-à-dire que quand on est quoi, face à des problèmes du quotidien, sur des désaccords, des mésententes, ce sont pas des relations toxiques.
Non, alors des désaccords ne sont pas des relations toxiques. Après, on va vraiment partir sur le ressenti de la personne. C'est comment je me positionne face à cette personne. Sachant que les relations toxiques peuvent aussi avoir lieu dans tous les domaines. Je peux être dans une relation toxique avec un employeur, un employé ou un collègue. C'est-à-dire que je me sens peut-être envahie par cette personne qui cherche peut-être tout le temps à m'écraser ou à me dominer et j'ai du mal à lui dire non.
D'accord, donc on sort vraiment du domaine sentimental. On
est plus... Ça vient toucher tous les domaines. D'accord. Évidemment, dans le domaine sentimental, comme je disais tout à l'heure, c'est quand il n'y a pas la notion de respect de l'autre. C'est quand finalement nos propres besoins passent avant celui de l'autre. Mais on va dire, pas forcément dans la bienveillance, et quelquefois ça peut être inconscient. On peut faire du mal à l'autre sans forcément, on va dire, le vouloir au préalable. Et après, ces relations aussi qui sont difficiles peuvent avoir lieu dans des relations, on va dire, familiales. Quelquefois c'est de parents-enfants.
Oui, parce que j'allais dire, du coup, ça peut, vu les exemples que vous donnez, j'y pensais tout de suite justement au domaine familial. Ça peut être une emprise parfois d'un parent sur un enfant. Et ça se joue aussi dans l'autre sens, enfant, parent, un peu
moins,
peut-être.
On va dire selon la structure de l'enfant, il peut avoir effectivement cette emprise et mettre en place une toxicité avec le parent.
Donc toxicité, alors quand on se dit toxicité, ça fait de suite penser à la chimie avec une relation toxique comme ça. Quand on dit relation toxique, c'est, comment dire, ça peut engendrer des problèmes qui sont, on va dire, parallèles à tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple d'une relation familiale, une relation toxique dans le domaine familial, si c'est, par exemple, un parent qui a une emprise sur un enfant, même si cette personne peut-être ne s'aperçoit pas du mal qu'elle engendre sur cet enfant, est-ce qu'après, ça peut engendrer des troubles chez l'enfant qui... Du coup, on dira pas oui, c'est parce que vous êtes dans une relation toxique, mais vous allez le voir que c'est cette relation toxique qui vont le faire. Mais par exemple, est-ce que ça peut engendrer des maladies pas mentales, mais je sais pas
des
si
pathologies.
On peut
le dire. Alors on va dire peut-être plus des névroses,
voilà.
Voire quelquefois des psychoses dans un cas plus grave. Oui, ça peut enfermer un enfant dans une place qui n'est pas la sienne. Ça peut, on va dire de façon, même si ce n'est pas léger, on va dire peut-être commune, ce sont des enfants qui ont du mal à dire non à leurs parents. Et en fonction de comment ça se joue, c'est des personnes ensuite, comme je vous dis, qui peuvent avoir du mal à dire non dans leur vie de tous les jours. Et vous savez, ça peut créer cette forme d'incohérence. L'exemple que je prends souvent, si nous, on voit qu'un objet est noir et notre parent dit qu'il est blanc cet objet, ben on va se dire, je vais faire confiance à mon parent. Je vais penser finalement que cet objet est blanc. Et ça peut créer, voyez, des problèmes de choix dans la vie et de manque de confiance en soi.
D'accord.
Enfin, vous verrez, ça vient toucher d'autres choses aussi. Mais oui, ça peut engendrer ce type de névrose et ou de pathologie.
Et je vais aller vraiment plus loin. Est-ce que ça peut engendrer des états ou des personnes qui en arrivent à des choses dramatiques comme peut-être des meurtres ou est-ce qu'on peut les identifier en tant que relations toxiques, ces personnes qui peut-être vont commettre des meurtres suite à des problèmes?
Alors effectivement, dans la case meurtre, il y a les crimes passionnels. Non, mais il y a les crimes passionnels. Souvent, les crimes passionnels sont dus à des relations toxiques. C'est-à-dire qu'il y a une escalade de la violence qui se fait de plus en plus dans le couple. On s'aime, on se sépare, mais on n'arrive pas à vivre l'un sans l'autre. On se remet ensemble et les mots vont de plus en plus haut. Quelquefois, les coups arrivent jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'un jour, malheureusement, le geste de trop... arrive aussi.
Oui, parce que je vous demande ça parce que on est tellement dans notre quotidien avec justement ces problèmes-là. On voit beaucoup de femmes subir les violences, voire jusqu'à l'acte ultime et dramatique de causer la mort. Et donc, on se demande si toutes ces relations toxiques qui peuvent se jouer aussi sur de la violence font partie et comment on peut les identifier, Alice, justement? Alors là, on revient dans le domaine sentimental quelque part.
En fait, les relations toxiques, alors pourquoi à un moment donné on ne peut être que dans des relations toxiques? C'est là la carte, comme vous dites, du psychanalyse, d'aller voir ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est comment on s'est construit, dans quel environnement, qu'est-ce qu'on a vécu pour qu'incessamment ou pourquoi de temps en temps je me mette dans ce type de situation. Parce que, tout à l'heure, on parlera du triangle de Cartman, le fameux triangle où il y a le rôle du bourreau et de la victime qui s'inverse, c'est-à-dire que j'en parlerai après. La victime peut venir bourreau, sauveur à la fois, comme le bourreau, on va dire, peut interchanger les rôles. Donc ça, c'est un point important qu'on abordera tout à l'heure. Et bien évidemment, ça vient de notre structure psychique, nos constructions identitaires dans l'enfance. Et après, la question est de savoir, est-ce moi qui suis toxique? Est-ce l'autre? Et comment savoir pour le faire et comment l'identifier?
Oui, justement, comment identifier vraiment, si on doit poser des exemples sur ces mots, ces relations toxiques? Voilà, comme on le disait, c'est pas des mésententes quotidiennes, on ne va pas les interpréter comme ça, relations toxiques. Alors, elles s'identifient comment, Alice?
Alors, moi, j'emploierais peut-être plus le mot aussi malsain. On peut associer le côté malsain à toxique. Alors, malsain, on n'y met pas forcément de la sexualité. Mais voyez, une relation fusionnelle n'est pas une relation équilibrée.
Donc, ah bon?
Souvent, les relations fusionnelles sont des relations toxiques. C'est-à-dire qu'on est censé
Pourquoi? Parce qu'il y en a un plus que l'autre ou...
Un plus que l'autre ou les deux en excès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là.
Je pense que vous allez en surprendre plus d'un en disant ça. Parce que fusionnel, généralement, on se dit c'est le couple parfait.
Et non.
C'est la passion, c'est...
Tout ce qui est excessif est déséquilibré. Donc,
excessif, Alice, je vais vous aller encore plus loin. Comment excessif, ça veut dire? C'est pas parce que je vais offrir un bouquet de fleurs tous les jours à ma femme ou des choses comme ça?
Ah
c'est
non,
pas ça.
C'est pas dans les actes. C'est vraiment dans le fait, comme je dis au niveau du ressenti, de la construction, c'est à rigueur ne pas pouvoir vivre sans l'autre et se sentir obligé de vivre à travers les yeux de l'autre.
D'accord.
C'est vraiment le
c'est
côté.
Ça,
c'est ça, où je ne suis pas assez individuée, où je ne m'auto-suffis pas Et dans le cas de la fusion, j'ai besoin d'avoir toujours cet autre à côté de moi, de le toucher, d'avoir son regard pour quelque part approuver et être incessamment rassurée.
Et pour dire ce que je fais, c'est je fais à travers l'autre, en fait, c'est ça. Tous mes actes sont faits à travers l'autre, voilà. Avec l'acquiescement de l'autre, avec l'aval, avec tout ça, vraiment.
Tout à fait. Là, on peut parler. Vous voyez, vous me faites penser à tout ce qui est, on en parlera une autre fois, des relations de dépendance affective. Il y a des personnes qui sont incapables de rester seules. Alors, il n'y a rien de jugeant dans incapable, hein, je vous dis vraiment. On ne peut pas faire autrement.
Je pense qu'on ne s'en rend même pas compte.
Et là, il y a une petite faille, il y a quelque chose à aller voir. Pourquoi je n'arrive pas à m'écouter? Pourquoi je n'arrive pas à me respecter? Et pourquoi j'ai toujours besoin, quelquefois, de la validation de l'autre?
Alors, mais est-ce qu'on cherche pas, parce que presque est-ce qu'on n'y vient pas nous-mêmes à ces relations toxiques? Parce que si une personne, elle a ce besoin-là, et peut-être elle va le répéter sans cesse avec peu importe quel partenaire, que ça soit X, Y ou Z, cette personne-là, elle va toujours rechercher ce sentiment, ce bien-être qui est le sien, en fait. Donc, quelque part, on s'y met toujours dans ces relations
toxiques. On s'y met toujours, c'est encore et toujours le travail de l'inconscient qui nous fait répéter incessamment ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà vécu. C'est ce que Freud appelle quelquefois les compulsions de répétition. Ça, on en parle lorsque, admettons, il y a eu des enfants battus ou maltraités qui se remettent malgré eux dans le même schéma. Donc c'est que quelque part, j'ai vécu de cette façon-là. Bon, je n'ai pas pu peut-être assimiler que c'était peut-être pas la meilleure façon dans laquelle j'étais aimée, mais comme je n'ai connu que ça, ça me rassure quelque part. Donc en le retrouvant chez l'autre, quelquefois malgré moi, ça vient inconsciemment me rassurer parce que j'ai déjà connu.
Oui, ça paraît fou toujours et surprenant de se dire qu'on peut se remettre dans les mêmes schémas alors qu'on sait très bien, ou pas peut-être, il y en a qui ne savent pas, que ce sont les pires relations qu'elles peuvent s'instaurer dans leur propre vie. Les relations toxiques, donc vous les identifiez, Alice, que ce soit dans le cadre familial, sentimental, ou vous disiez même
amical, professionnel.
Donc professionnel. C'est vrai que parfois des personnes vont avec la boule au ventre au travail parce que ça se met souvent du côté du patron. Il inflige une pression phénoménale. Parfois, alors c'est vrai, ça fait peut-être un peu la caricature du patron, irrespectueux, très demandeur. Voilà. Donc, mais ça peut ne pas forcément être un patron, ça peut être aussi un collègue de travail.
Ah, mais complètement.
Ça peut être vraiment.
Comme je vous dis, dès qu'il y a...
Ça se joue comment sur les relations professionnelles?
C'est surtout... Alors, c'est quand il y a une notion de pouvoir et de manipulation. Et c'est là qu'on rentre dans la relation toxique. Au début, on se dit, bon, il est comme ça ou elle est comme ça. Là, c'est des sauts d'humeur. Oui, non. Mais lorsque ça devient, on va dire, de façon chronique et régulière, comme vous dites que des personnes vont travailler la boule au ventre, soit à cause de leurs collègues, soit quelquefois à cause de leur employeur, là, on peut parler de toxicité de relation. Parce qu'on n'est pas censé craindre et avoir peur de nos collègues et ou, on va dire, de nos employeurs. Le pouvoir n'est pas forcément assimilé à la crainte ou à la peur.
Oui, mais ça semble plus facile à dire qu'à faire, Alice.
Ah, mais je sais tout ça.
Parce que parfois, encore quand on est dans une relation sentimentale, peut-être la parole est peut-être, je dis pas, peut-être plus aisée. Quand on est dans un cadre sentimental ou familial, mais quand on est dans un cadre professionnel, même si on se dit que la parole peut-être est plus libre avec un patron, mais non, je pense pas.
C'est ça en fait, après tout dépend de notre point de vue et de notre relation à l'autorité.
Eh oui.
Déjà.
La perspective aussi de perdre un emploi, peut-être, si c'est un supérieur.
Mais complètement, c'est pour ça que chaque situation est difficile, parce que lorsqu'on n'a pas le choix, lorsqu'on n'a pas de perspective ou d'évolution en changeant de quelquefois de lieu de travail ou de, comment on dit, quand on peut changer de statut,
de poste
et autres. Effectivement, ou quand on a, comme vous dites, ce poids financier, ça peut être compliqué à vivre. Et, alors, ce n'est pas qu'à cause de ça, mais si des burn-out aussi arrivent, c'est parce qu'à un moment donné, il peut y avoir cette fameuse relation toxique.
Finalement, elle est le point de départ, peut-être, à beaucoup de mots, finalement, la relation toxique, puisque là, on est en train de la décortiquer au fur et à mesure, mais je vois que finalement elle est le point de départ de beaucoup de problématiques autres, Que oui, une relation toxique, ça peut amener un pervers narcissique. Une relation toxique, ça peut être un amour fusionnel. Une relation toxique, ça peut être voilà, du côté professionnel avec une supériorité, mais aussi la peur de craindre peut-être plein de problèmes autres que de perdre un emploi et je ne sais quoi d'autre. Alors, tout ça, ça semble, on se dit finalement, presque tout le monde y est susceptible d'être dans ces relations-là, mais j'ai envie de vous dire comment faire, Alice, quand on est dans ce type de relation, comment s'en sortir, puisque là, on prenait le cas du professionnel, mais là, je veux dire, comment, je vais aller voir mon patron, je vais dire, vous me tuez là, le cerveau, je viens avec la boule au ventre tous les jours.
Alors,
qu'est-ce que vous conseillez, vous, dans ce
cas-là ? Alors, déjà, comme vous dites, c'est pas facile d'identifier déjà que nous sommes dans une relation toxique. Le cheminement entre je subis, je suis mal et je suis dans une relation toxique est parfois long. Et une fois qu'elle est toxique, moi, ce que je propose au cabinet, c'est de s'interroger justement sur le fait de pourquoi j'en suis là dans cette relation. Si c'est moi qui suis la victime, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'accepte...
On pourrait être fautif quelque part, vous dites ?
Alors moi, je déresponsabilise les... Alors, on n'est jamais... Alors,
parce qu'on se met...
Il y a plusieurs types de, voilà, de pensées, de paroles. C'est que non, il y en a certains qui vont dire « quelle est ma responsabilité dans l'histoire ?» Quelquefois, oui. Mais c'est plutôt d'aller se dire « ben moi, comment je suis structurée ? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je puisse accepter cela ?»
D'accord. Oui, vous essayez de dédramatiser la chose en ne mettant pas la responsabilité à une seule et même individu. Quoi,
voilà. C'est ça. Et surtout, comme je dis souvent moi, à mes patients, c'est d'avoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Parce que quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. On ne voit plus de solution de sortie. C'est là qu'on va très mal. Et quelquefois, en identifiant ce qui se joue, en travaillant dessus, on peut se dire que peut-être ça existe pour le moment, mais qu'il y a une solution. On peut s'en sortir et avoir une vie différente ou un comportement, un positionnement différent par la suite.
Alors, moi, je vais vraiment dans les exemples. Si vous êtes dans cette relation toxique avec un supérieur qui est dans votre travail et que tous les jours vous le subissez, vous êtes en train de dire qu'est-ce qui a fait que j'en vienne à cette relation entre ce supérieur et moi-même ?
Alors, c'est plutôt
parce que j'acquiesce des choses qu'il fallait pas, c'est ça ?
Alors après, ce qui est compliqué, c'est que voilà, tout dépend de la structure psychique de la personne qu'on a face de nous. C'est une personne qui est, on va dire, simple névrosée, avec des problématiques, voilà, de tempérament, c'est une chose. Mais quelquefois, on a face à nous des personnes qui sont soit borderline, donc état limite, ou soit psychotiques, qui ont une structure vraiment différente à part entière et qui imposent ce type de relation. Mais après, la question, c'est moi, admettons en tant qu'employée, qu'est-ce qui va faire ? Je l'accepte. Parce qu'il y a des employés qui vont rester un mois, deux mois, trois mois et qui vont dire hors de question qu'on traite comme ça et je m'en vais. Et d'autres, bah, par rapport à plusieurs enjeux, dont un enjeu personnel, vont se dire non, je n'ai pas le choix que de rester. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de qui on a en face de soi et en fonction de comment nous sommes structurés, nous.
D'accord, oui. En fait,
c'est assez vaste.
C'est déjà des personnalités différentes, alors sans les juger ou les accuser de quoi que ce soit, oui. De dire que ces personnes-là vont plus supporter ou encaisser des choses que d'autres ne le feraient pas, je comprends bien. Mais si ces personnes ont peut-être la charge de se dire « je le supporte parce que je n'ai pas le choix, pas parce que j'ai l'envie ou la faiblesse de caractère qui fait que je suis... voilà, dans l'obligation d'accepter, mais si par exemple il y a des personnes qui se disent que c'est pour une réussite professionnelle, admettons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent chaque jour des pressions abominables, mais parce que leur volonté est juste de passer par là pour arriver à un poste ou à un objectif de carrière qui ne peut pas être autre que si on doit passer par ce chemin-là. Alors qu'est-ce qu'on doit dire à ces personnes ?
Alors on travaille sur le fait qu'au final, la personne, on va dire, ou déséquilibrée ou toxique, ait de moins en moins d'effet sur nous. C'est-à-dire qu'au final, ce que je dis souvent, c'est que ces paroles rebondissent sur nous. C'est qu'une fois qu'on a identifié qu'on est en face de nous, on dit que la personne, elle ne peut pas être différente, peut-être. Donc c'est à moi de faire en sorte de mettre une distance émotionnelle plus importante entre elle et moi pour que je sois moins atteinte par ce qui se joue. Donc c'est
d'accord.
Un travail
de mettre une
de
mur entre les mots de la personne et nous-mêmes pour se protéger.
Mur, on va dire, avec des solides fondations et pas fait de n'importe quelle façon. C'est pas après être dans le déni et se couper de ses émotions, c'est pas ça dont on parle. C'est vraiment faire un travail sur soi en profondeur pour réussir à se dire c'est peut-être lui ou elle qui a un problème, ce n'est pas moi. Donc voilà, ça va se jouer différemment maintenant.
D'accord, donc essayer de se protéger. Si la personne, de toute manière, on ne peut pas quitter le poste ou la changer, souvent c'est compliqué de changer les autres.
Hein. C'est ça.
Hein, déjà, comme on a du mal à se changer soi-même.
C'est ça, à évoluer.
J'imagine encore moins de changer les autres. Mais c'est vrai que ça fait un peu style le film, le Walt Disney Cruella d'enfer, quoi. On arrive au boulot et on a ce stéréotype de personne-là et la boule au ventre qui se crée. Et c'est vrai qu'on est dans un sentiment de faiblesse, de soumission même par rapport à cette personne qui... voilà, en fait, c'est vraiment dans ce schéma de relation toxique qu'on est, Alice.
Tout à fait.
Alors, vous êtes là à conseiller, donc toutes ces personnes, si par exemple de manière professionnelle, elles subissent cette pression-là, ce ressenti, donc déjà, bon, en dehors de se faire aider par vous ou des collègues comme de votre profession, de dire que bon, déjà, c'est pas nous qu'on a forcément un problème. Parce que des fois, c'est là où je veux en venir, c'est que des fois on se dit que c'est nous qu'on a un problème parce que les autres ne le vivent pas comme nous on le vit. Et c'est là la différence justement de ce mur, de placer ce mur à ce moment-là.
Tout à fait.
Parce que même si la personne elle est la même, d'autres, genre, moi je m'en fous, il gueule, il fait ce qu'il veut, ça c'est va ça. Rien changer. C'est ça qu'en fait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça vient dire de moi cette histoire et pourquoi ça me touche tant. C'est là-dessus qu'on travaille souvent.
Alors ça touche tant, pourquoi ? Parce que là. Est-ce que, par exemple, un collègue, lui, qui vit la même chose que moi, ne va pas du tout le vivre de la même manière, mais c'est par rapport à quoi ? Notre famille, à notre évolution dans la vie, c'est tout ça
c'est
qui
ça.
Se joue ?
Tout ça qui se joue là, encore.
Quand on vient vous voir, on fait un check-up complet, quoi, en fait. C'est ça.
C'est à peu près ça.
Donc, on va se dire, pourquoi j'arrive à accepter cette relation-là, par exemple, dans le cadre professionnel ? Parce que ça passe peut-être par des choses vécues dans la manière dont, dans le cadre familial.
Voilà, c'est comme ça que nous, on réfléchit, on analyse. Ouais,
D'accord. Et une fois qu'on a analysé ça, Alice, qu'est-ce qu'on se dit ?
Qu'est-ce qui se passe ? Ben, ensuite, c'est vraiment l'histoire de, comme j'ai dit, de se reconnecter à soi-même, de l'histoire de la congruence, c'est reprendre confiance en soi. Et ce qui est très intéressant, c'est que quel que soit le domaine dans lequel on a vécu des relations toxiques, on commence et on réussit à dire non. Et si ça, quelquefois ça passe par le professionnel, après ça va avoir, on va dire, une résonance dans le milieu privé et autres. C'est vraiment se respecter. Voilà, oser dire non. Pas contre l'autre, mais parce que moi, pour moi, je me dois de dire non.
Alors, là, je passe maintenant dans le cadre familial. Et là, on va dire, on n'est pas sur le subordonné patron, etc. Mais des fois, on peut dire que c'est le subordonné maternel, paternel. Parce que là, ça se joue. Et ça, je sais qu'aussi, beaucoup de personnes qui nous écoutent peut-être subissent cette pression-là d'un parent qui met toute la pression sur, parfois, un enfant de la fratrie, parce que plus qu'un autre, ça aussi, ça fait un petit peu comme dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que nous, on va le subir d'une manière que les autres ne le subiront pas, et c'est vrai que ça se passe par exemple dans les fratries, ou encore pire quand c'est un enfant unique. Mais c'est vrai que parfois, on voit que dans une fratrie, un est plus soumis que les autres, si je peux le dire ainsi,
bien
ça
sûr,
se dit
ça
soumis,
peut arriver.
Parce que il va répondre, on va dire, de manière... malheureusement plus facile pour lui de dire « Oui, tu vas m'acheter ça. Oui, pourquoi tu viens pas ?» Oui, là, c'est vraiment ces relations toxiques de parents. Mais c'est vrai que des fois, ça se joue que sur un seul individu de la fratrie. Alors, pourquoi parfois celui-là et pas les autres ?
Alors, celui-là, parce que comme je l'ai déjà dit, nous arrivons tous dans la vie de nos parents à des moments différents. Donc, est-ce que je suis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment dans la vie ? Et quelquefois, l'enfant capte inconsciemment que si ça a été compliqué et que s'il porte en lui, on va dire, une charge inconsciente, émotionnelle, lourde, de par peut-être des traumas ou des histoires de famille, l'enfant va penser devoir s'adapter à toutes les situations et surtout ne pas faire de vagues. Les enfants qui sont très sages, qui s'adaptent à tout, qui n'osent pas dire non à leurs parents parce qu'ils ont ce poids justement de ne pas les perturber plus peut-être qu'ils ne sont ses parents. Et bien évidemment, en fond, se pose la question de voilà, est-ce que je suis aimée et comme je veux être le plus aimée possible, surtout, je vais tout accepter.
D'accord. Ça serait presque une peur de...
Oui.
De reconnaissance, d'amour du parent, ça
au
serait
final,
plus ça.
Au final, très très souvent, on retrouve cette problématique.
Pourtant, parfois, on voit des enfants qui sont pas forcément fusionnels avec ces parents-là. Il y en a, oui, au contraire, ils sont très fusionnels, ils passent tout par ce parent-là. Et d'autres, finalement, non, mais des fois, presque, ils les détestent même ces parents. Et malgré tout, ils subissent cette pression-là, ces chantages affectifs, voilà. etc. Pourquoi alors ? Parce qu'il y a à la fois cet enfant-là, mais il y a l'autre aussi, à l'opposé, qui est presque à détester le parent. Alors, est-ce que c'est vrai finalement qu'il le déteste ou c'est peut-être...
Alors moi, je vais peut-être choquer, mais je fais partie des professionnels qui disent qu'on a le droit de ne pas aimer ses parents. Déjà, c'est dur. Hein. Mmh. Et quelquefois, il y a aussi ce phénomène d'emprise qui est là, c'est que même si on ne veut pas, même si on ne veut rien voir, même si on habite à distance, ben dès lors qu'on est en contact avec ce parent qui perturbe, ben on se remet en position de petit enfant, de par ce qui s'est joué, voilà, comment on s'est construit, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette relation familiale avec ce parent ou ses parents. Et très très souvent, comme je vous disais, le cœur du problème, c'est, voilà, c'est la peur de ne plus être aimé.
D'accord. C'est fou. Parce que c'est vrai que parfois, on voit dans ces relations-là que l'enfant, justement, cherche à créer une distance, même une distance kilométrique, hein, pour justement retrouver sa liberté et ne pas avoir à affronter à dire non, justement. C'est comme ça. Le non est complètement difficile, eh ben, parfois, la personne, elle cherche à dire, ben, même à partir dans des pays à l'étranger, pour dire, voilà... Ben, la distance va me permettre de dire ce nom que je n'ose pas le dire moi-même.
Alors très souvent, effectivement, ça va être salvateur de s'éloigner des personnes toxiques, ce qu'on peut conseiller, mais sans faire un travail sur soi, ben, quelquefois, ces personnes qui partent en exil à l'étranger peuvent, malgré eux, à nouveau se retrouver dans le même style de relation toxique au niveau, comme je disais, amoureux, amical, professionnel, sans forcément que ça reste dans le cadre avec les parents. Ça se rejoue, vu que ce n'est pas traité, ce n'est pas réglé, ça va peut-être sûrement se rejouer. Oui, ça d'accord. Se déplace. Oui.
Ça peut se déplacer.
Quelquefois, vous voyez, si on prend l'exemple, je sais n'importe quoi, d'un fils qui a une mère qui lui a semblé être castratrice ou trop prégnante sur lui ou comment il l'a vécu, peut partir vivre ailleurs. Et quelquefois, ce fils va aller chercher une femme toxique qui va peut-être s'en prendre rejouer le même scénario que la maman.
Ah oui, non, ça serait presque se donner le bâton pour se faire battre, mais ça paraît très fou. Mais en même temps, je pense que c'est des scénarios que vous devez voir.
Qui arrivent souvent.
Qui arrivent souvent. Alors là, voilà, quand on est là, on se dit, on s'est enlevé dans une situation pour s'en mettre dans une autre. Là, vraiment, il y a un travail sur soi, mais ce travail doit être long, Alice, non ?
Franchement, il n'y a pas de règle.
Comment se changer là ? Parce que c'est se changer.
C'est se changer, c'est plutôt évoluer. Et, moi, je parle plutôt en termes de position, se repositionner. Comment je me repositionne dans cette famille, dans ce couple ou dans ce travail ? Voilà, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir et surtout comment je vais faire pour tenir cette nouvelle place dont on parle souvent.
Mmh. Ouais, ça, c'est une nouvelle place sur laquelle on n'a pas l'habitude d'y être.
Qui est donc inconfortable.
Qui est inconfortable, oui.
Qui est compliqué. Et qui, malheureusement, on est obligé de passer par des moments douloureux en thérapie pour pouvoir y accéder, quoi, y arriver.
Ah oui ? À ce point douloureux ? À ce point douloureux ? Ah ouais, d'accord.
Ben oui, parce que malheureusement, on va dire, l'humain n'évolue que dans la douleur. Et on est souvent obligé de passer par cette reconnexion à l'enfant intérieur pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est encore un autre thème. C'est vraiment se reconnecter aux ressentis, ce qu'on a ressenti en tant que petit enfant, pour évoluer et se sentir mieux dans notre vie d'aujourd'hui.
Mmh. Oui, j'imagine. Rien que moi d'imaginer le travail que ça doit être, ça me fait peur, parce que ça doit toucher beaucoup en profondeur quand même à soi, quoi, vraiment, ouais, ça doit être très prenant. Alors Alice, on va accueillir un témoin dans quelques instants, le temps de vous accorder une petite pause et de bien comprendre sur quel thème on est aujourd'hui. Voilà, vous êtes dans notre émission, Alice et nous, voilà, vous poussez la porte du cabinet d'Alice. Alice et vous, une émission qui vous permet, ben voilà, on aborde chaque semaine des thèmes, et celui d'aujourd'hui, évidemment, c'est celui de la relation toxique. Alors la relation toxique, Alice, avant qu'on se quitte, juste voilà, faites-nous une petite synthèse de ce qu'on vient de dire et avant qu'au moins on comprenne, pour les personnes qui viendraient nous rejoindre, de quoi il s'agit vraiment.
Alors, une relation toxique est une relation dans laquelle il y a un problème d'équilibre, où il y en a un des deux qui se sent peut-être écrasé, où il y a donc peut-être ce phénomène de domination, de respect, ce problème de limite entre deux personnes, donc quel que soit le domaine, voilà, dans lequel ça interagit.
Oui, on a dit familial, professionnel,
amical et amoureux.
Amoureux, voilà. Vraiment, il y a presque bah, finalement tous les cadres de vie.
Ben, dès qu'il y a du lien, dès qu'il y a de la relation humaine, et il y a risque de relation toxique.
Dès qu'il y a l'humain là-dedans.
Et oui, il faut être deux.
On se fait tellement de mal entre nous. Allez, donc le temps de cette pause avec la chanson choisie justement par Alice, Sherif Alouna, Il avait les mots, et on revient pour la deuxième partie de notre émission Alice et vous. De retour dans votre émission Alice et vous, une émission autour voilà, de chaque thème, chaque semaine, autour de la psychanalyse, c'est ça Alice ?
Tout à fait, oui.
Voilà, de la psychanalyse sur des thèmes bien précis et qui font franchement, je vous le dis, partie du quotidien et de tous. C'est ça qui est fou, c'est que ça peut arriver. On peut se retrouver dans n'importe quelle de ces situations, n'importe quel de ces thèmes. Je vous dis, on aborde aujourd'hui les relations toxiques, mais on a abordé la thérapie de couple, on a abordé aussi, voilà, j'arrive jamais à... Voilà, c'est la genèse, moi ça me fait penser à ça, mais c'est
la psychogénéalogie.
Voilà, la psychogénéalogie, vraiment quelque chose aussi de passionnant. Et toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver en podcast sur le site internet de votre radio, sur le www.diva-fm.fr. Je vous disais juste avant de faire cette pause musicale que nous allions retrouver un témoin et nous allons donc, je vais vous laisser Alice l'accueillir puisqu'elle fait partie de votre patientèle et elle a voulu témoigner aujourd'hui. Elle en a le courage parce que moi j'appelle ces personnes des personnes courage parce qu'elles exposent un petit peu une partie d'eux, une partie de leur vie et elles nous le font partager pour mettre en exemple tous ces mots que l'on vient de dire. Allez-y, je vous en prie, Alice.
Oui, bonjour Manon. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Jennifer qui parle de courage et je pense que c'est un trait de caractère qui vous caractérise bien, n'est-ce pas?
Bonjour Manon, bienvenue dans cette émission, l'émission donc d'Alice et Alice et vous. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que relation toxique, un petit peu dans votre vie. On va l'aborder, voilà, vous allez, ne vous gênez pas à m'arrêter si j'ai une question qui va vous gêner ou quoi, n'hésitez pas, je vous mets complètement à l'aise. Mais c'est vrai que on a abordé avec Alice, juste avant de vous recevoir, les différents types de relations toxiques sur lesquelles ça pouvait se jouer dans le cadre professionnel, dans le cadre relationnel avec un parent, le cadre sentimental avec un conjoint, dans le cadre également amical, ça se joue vraiment sur beaucoup de thèmes, beaucoup de personnes. Dans le cadre de cette relation toxique, vous, ça s'est joué à quel niveau, Manon ?
C'était au niveau sentimental, puisque ça a été mon compagnon pendant 4 ans.
Ça a été, alors si je comprends bien, c'est que ce n'est plus le cas, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Comment déjà, vous-même, j'imagine, c'est compliqué de dire que la relation est toxique, vous avez... C'était, voilà, à identifier, je pense que c'est pas vous qui avez pu identifier que c'était une relation toxique, j'imagine.
Non, effectivement, c'est en début de thérapie après ma rupture que ça a été identifié comme ça, on va dire.
Ça a été identifié comme ça. Alors pour vous, sans dire que c'en était une, ça se jouait à quel niveau, en fait, cette relation toxique? Vous la viviez comment? Elle vous rendait pas heureuse? Vous subissiez beaucoup de choses qui vous rendaient malheureuse? Comment ça se passait? Au quotidien, vous le viviez comment au quotidien, en fait, de dire que dans cette relation toxique, déjà, voilà, parce que on se dit, par exemple, voilà, moi avec mon conjoint, je suis pas d'accord avec lui, on a une altercation, voilà, c'est que des mots, le désaccord est tellement quotidien, on va dire. Vous, ça se jouait sur quel niveau?
C'était surtout, je me sentais pas bien, mais c'est pas que j'identifiais pas forcément que c'était la relation, je me rendais bien compte qu'il y avait des soucis, mais même sans me sentir bien dans la relation, je me voyais pas non plus être en dehors de cette relation, je dirais. Et je me sentais pas forcément, on va dire, entendue ou écoutée, mais j'avais l'impression que c'était normal et que c'était comme ça, en fait. Et c'est après coup quand, en fait, c'est lui qui m'a quittée sur le coup. Et c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis rendu compte, une fois qu'on était séparés, que ça allait mieux. Et que, du coup, je me suis dit que le problème était la relation. Mais avant, c'était pas vraiment très clair dans ma tête, on va dire, que c'était ça.
Alors, cette relation, est-ce qu'auparavant, vous aviez eu d'autres aventures amoureuses?
Oui.
Et vous n'aviez pas forcément... ressenti ce malaise, ce mal-être qui était le vôtre avant cette relation-là?
La première relation, elle a duré 5 ans et j'étais très jeune au début de la relation, donc du coup forcément on n'habitait pas ensemble ni quoi que ce soit, donc je pense que j'arrivais pas forcément à avoir de point de comparaison puisque là on habitait ensemble, etc. Donc c'est vrai que
Oui, là, vous étiez vraiment dans le quotidien classique de personnes vivant ensemble. Et quand on se dit que souvent, ben, voilà, dès que le quotidien commence à être partagé à deux, c'est un petit peu plus compliqué que chacun chez soi. Ça, c'est une évidence aussi. Mais ce qui voulait, pourquoi je cherche à aller un petit peu dans le détail, vraiment pas pour être indiscrète, c'est pour que on arrive à identifier à quel point ça le devient, cette relation toxique. On se dit, voilà, quand on peut se disputer, qu'on n'est pas d'accord, que parfois ben, on n'est pas bien, il y a des périodes où on n'est pas bien parce qu'on subit des pressions professionnelles, et donc du coup ça se ressent dans notre relation de couple. Alors là, on se dit que c'est presque le quotidien de tout à chacun, vous voyez, Manon ?
Oui.
Et donc c'est pour ça que je voulais que vous arriviez à nous dire, vous, à quel point. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, cette relation, en dehors des exemples que je viens de donner, qui peuvent être un peu le quotidien de chacun, est-ce que vous, par exemple, c'était de vous sentir inférieur à la personne, d'être rabaissé, de devoir vivre à travers cette personne ? Est-ce que c'est un petit peu tout ça ?
Oui, c'était surtout le sentiment de jamais être à la hauteur, de jamais faire les choses correctement, et de jamais, enfin pas de jamais suffire, mais si, c'est un peu ça, c'est être constamment obligé de se remettre en question par rapport à la relation, et surtout que le quotidien tourne un peu autour de la personne, on va dire, et plus se sentir soi un peu, enfin s'oublier entre guillemets pour l'autre.
D'accord, c'est pour ça que je voulais bien que vous disiez ça, parce que justement Alice nous a évoqué, Alice, vous nous disiez juste avant d'avoir le témoignage de Manon, qui je pense c'est pas facile, et je vous remercie mille fois Manon de le faire, mais c'est vrai que vous disiez c'est vivre à travers l'autre, c'est vivre pour l'autre, c'est s'oublier, c'est souvent subir une pression phénoménale en fait, voilà, là par exemple j'entends Manon qui dit c'est toujours se remettre en question, jamais faire assez bien. C'est un petit peu tout ça, vraiment ?
Oui, c'est ce qu'on peut ressentir, mais tout ça, on le ressent à cause des paroles et ou des agissements de l'autre. Pardon, on ne parle pas simplement du fait je n'ai pas confiance en moi.
Oui, ce n'est pas un problème de soi
voilà,
au départ.
Il ne me dit rien, ça se passe bien, c'est plutôt qu'est-ce que l'autre met en place pour que je me sente toujours inférieure et toujours obligée de me poser la question de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. C'est vraiment aussi la sensation de aussi devoir toujours marcher sur des œufs.
D'accord, oui, donc d'être dans une relation toujours instable, où il faut toujours se remettre en question, dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit enfin satisfait de ce que je fais, à un moment donné. Vous étiez tout le temps dans cette pression, Manon, toujours comme ça, chaque jour, de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma relation aille dans le bon sens, que que la personne qui est en face de moi soit à un moment donné presque satisfait de ce que je lui donne, c'est ça en gros ? Vous êtes vraiment dans une relation, presque, on dirait, d'un patron à un employé qui est dire, voilà, je dois faire mon quota, sinon il n'est pas content, et si je peux en faire plus, c'est encore mieux. C'est presque ça, on dirait.
Oui, c'est ça, mais en plus de ça, c'est surtout le fait que peu importe ce qu'on fait, c'est
ça n'ira jamais.
D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on va nous... Enfin, on va dire des injonctions paradoxales en permanence. C'est-à-dire que... Il va demander, par exemple, je sais pas, ranger quelque chose, et puis après, quand on va le ranger, bah, vu qu'on va faire du bruit, ça va le déranger, donc du coup, ça va pas non plus, en fait. C'est peu importe ce qu'on fait, même si on sait ce que la personne nous demande, en fait, c'est jamais bon. Ça va jamais. Quoi qu'on fasse.
D'accord. Et ça, vous l'avez vécu combien de temps ? 4 ans, c'est ça ?
Après, réellement, vraiment, ce côté-là, beaucoup plus, on va dire, présent tous les jours, ça part seulement même emménager ensemble, et du coup c'était au bout de 3 ans de relation, mais déjà avant ça allait pas trop, mais je le vivais moins parce que on était moins tout le temps ensemble, on va dire. Mm-hmm. Mais à partir du moment où on a habité ensemble, c'était quotidien.
C'était quotidien. Et quand ça se joue vraiment sur, voilà, vous disiez pour ranger quelque chose, mais alors il fallait, on se dit oui, il faut le ranger parce que sinon il va pas être content, mais parce que je le range, ça fait du bruit, ça paraît fou d'entendre quelque chose comme ça. La pression que vous deviez subir au quotidien, j'imagine même pas pour qu'à un moment donné, vous ayez juste la reconnaissance du merci et de je t'aime, je suis heureux d'être avec toi. C'est fou d'attendre une relation comme ça, un mot, et jamais vous aviez à un moment donné, la satisfaction et le plaisir d'avoir la personne en face de vous qui vous disait « Mais tu me conviens parfaitement, je suis heureux de ce que tu es, de ce que tu fais pour nous. » Non, jamais ?
Si, mais c'était le plus souvent. En fait, c'est peut-être là où d'ailleurs c'était un peu... je sais pas si on peut dire pervers, mais presque. C'est qu'à chaque fois que j'étais vraiment sur le point de flancher et de tout envoyer balader, parce que forcément, la pression, au bout d'un moment, on finit par craquer un peu... Et ben à ce moment-là, il y avait ce genre de choses.
D'accord.
D'un seul coup, le petit mot, la petite chose qui va
qui
bien, la petite attention.
Ouais. Mmh.
Voilà, c'est ça. Et puis en fait, on s'accroche à ça et pendant quelques jours, du coup, on se dit que ça va mieux. Et puis après, ça recommence. Et puis voilà.
Ouais, c'est sans fin.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Ouais. Donc là, oui, j'arrive à comprendre Alice à travers ce que Manon nous dit, que quelque part, peu importe ce qu'elle fait, ça n'allait jamais, et que quand elle était sur le point de flancher. Justement, c'est à ce moment-là que la personne devient rassurante. Alors, c'est vraiment voulu, quoi, vraiment.
Quelquefois, pardon, c'est conscient, quelquefois inconscient.
Alice, elle perd sa voix, voilà. Ça y est.
C'est ce qu'on retrouve, pardon, chez les manipulateurs. Il y a des manipulateurs, effectivement, à tendance perverse, comme le mot qu'a employé Manon est juste, c'est-à-dire que au quotidien, ils ne se rendent pas compte ou pas. Qui nous écrase incessamment. Et dès lors qu'ils sentent qu'on met une petite distance, qu'on n'en peut plus et qu'on va partir, comme par magie, redeviennent doux, gentils et les bons moments reviennent.
Oui, mais en fait, ils ne durent pas ces bons moments parce que dès que les choses se stabilisent et qu'on voit la personne de nouveau retourner dans notre.
C'est ça. Et c'est là que.
Notre rituel, on va dire.
Qu'il est important de poser la notion d'emprise. Parce que, comme dit Manon, elle était consciente de. Sans poser de mots, de ce qu'elle vivait, et c'est normal, pas normal, elle en avait marre. Mais comme elle disait tout à l'heure, elle ne souhaitait pas non plus vivre sans lui.
Et oui.
Et c'est vraiment cette emprise que ces personnes-là mettent en place sur nous qui nous empêche de franchir le pas de la rupture quelquefois.
En fait, est-ce que vous viviez au travers de cette personne-là, Manon ? Est-ce que vous aviez besoin de lui ? Pour vous, c'était comme n'importe quelle personne qui aime. On a besoin de l'autre, on ne se voit pas vivre sans l'autre. Mais en même temps, est-ce que c'était un peu plus fort que ça pour vous ? Est-ce qu'il fallait vraiment que tout à travers votre vie, tout ce que vous faisiez au chaque jour, ça soit acquiescé par cette personne-là ? Est-ce que vous étiez dans ce comportement ou pas du tout ?
En fait, c'était un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'avais ma vie, hein, puisque, voilà, je faisais mes études, j'étais en stage, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, et ça, c'était vraiment le truc qui, je sais pas, je pense, c'était vraiment le truc qui me permettait de vivre, peut-être, dans un sens, parce que du coup, déjà, j'étais pas à la maison. Et,
oui, vous échappiez de ce,
voilà.
Ouais, de ce cercle-là.
C'est ça.
Ouais.
Mais, hormis cette partie-là, à laquelle je tenais assez, en fait, pour pas la lâcher, sinon, oui. C'est-à-dire que si je n'allais pas forcément aller, je voyais plus beaucoup mes amis, parce qu'en fait, je voyais surtout ses amis à lui, par exemple. Enfin, c'était tout tourné autour de lui, et moi, je m'adaptais, quoi.
Je trouve que franchement, Alice, on n'est pas loin du pervers narcissique. Hein. On est quand même à la frontière. Hein. Moi franchement, entre... Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas que je vais devenir une spécialiste, Manon, mais j'en entends tellement, du coup, qu'on est à la frontière, là. Hein.
On n'a pas parlé de la structure de cette personne-là. Peut-être,
oui.
Effectivement, qu'elle était perverse narcissique ou elle était au moins tendance perverse. D'où ce côté chaud-froid, ses allers-retours, le côté un peu narcissique. La volonté de vouloir la couper de
oui,
ses amis. Isolée,
voilà donc, on est dans les vous avez vu, je suis spécialiste.
Moi, hein. Bravo, Jennifer. Donc, il y a ça. Et aussi, je pense, ce qui a pu être déterminant, je ne sais pas ce que vous allez me dire là-dessus, Manon, sans forcément révéler quoi que ce soit, c'est après la rupture, les comportements et les chantages affectifs aussi qui ont pu être mis en place. Ils sont venus, c'est vrai, conforter, quand Manon, elle s'est retrouvée perdue à la suite de la rupture, c'est d'identifier sur ce qui s'est passé et on va dire c'est grâce à ses comportements, à ses agissements d'après la rupture qui a fait comprendre et voilà.
La rupture, excusez-moi, c'était voulu par vous, Manon, ou par la personne ou les deux.
Enfin, ça a été une phase où moi, je commençais vraiment à saturer plus, on va dire. Mais c'est lui.
D'accord.
C'est lui qui a pris la décision. Enfin, il est revenu dessus peut-être 3 jours plus tard. Mais en attendant, c'est lui qui a pris la décision sur le coup. Et,
mais après, vous, parce que vous avez profité de cette libération pour faire un recul, alors quelque part, en fait.
C'est ça. C'était un peu, ça a été un peu l'échappatoire, on va dire. Ça a été vraiment, à partir de ce moment-là, enfin, c'est limite quand les gens battent son fou, quoi. C'était presque ça, d'ailleurs.
Oui, vous après, en fait, sans le vouloir, mais je pense qu'il devait peut-être pas imaginer que ça allait aller jusque-là, mais en quelque sorte, la distance qu'il vous a mis, ça vous a sauvé, parce que ça vous a permis de prendre du recul et de faire un petit peu, j'imagine, le point sur cette relation, de dire est-ce que vous allez continuer ça perpétuellement. Je pense que c'est assez compliqué de vivre ça pendant une durée indéterminée. Mais une fois que donc il a proposé la rupture, que vous avez pris du recul, dans votre tête, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, Manon ? Pour que vous arriviez à faire tout ce schéma dans votre tête, en fait.
En fait, j'avais déjà fait un tout petit peu le cheminement juste avant, parce qu'on avait été séparés physiquement, en tout cas, 3 semaines. Mm-hmm. Et donc déjà, je m'étais un peu, je m'étais dit que de toute manière, si jamais on devait séparer, fallait pas que je revienne, quoi qu'il arrive. Et en fait, après, ça a été surtout ça a été très dur au début parce que dans ma tête, je me disais, faut pas que tu reviennes. Quoi qu'il arrive, faut pas que tu reviennes parce que finalement, tu te sens mieux quand il te parle pas, tu te sens mieux quand t'as pas trop de nouvelles. Et ce qui n'a pas été le cas pendant... Enfin, il me donnait des nouvelles assez régulièrement. Il revenait à la charge assez régulièrement pendant... jusqu'à pas très longtemps en soi, il revenait toujours à la charge. Donc c'était, ça a été pesant aussi à ce niveau-là.
Et oui, ça devait être assez dur pour vous parce que les sentiments, ils y sont toujours dans votre cœur, dans votre tête.
Non, mais l'emprise, oui. Enfin, je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas très très longtemps, étant donné que... Oui, c'est ça, il y avait plus de les sentiments, je pense qu'ils étaient même plus à la fin de la relation, honnêtement. Je pense que j'étais même enfin non, je
Mais pourquoi l'emprise Mais pourquoi l'emprise Manon? Quand on a plus de sentiments.
Je saurais pas expliquer, mais en fait, c'est que c'est un tel on a l'impression que même en étant séparés par exemple, dès que je refusais de faire de revenir, dès que je refusais de le voir, de lui parler, j'avais l'impression que c'était ma faute et que c'était peut-être pas tout à fait vrai, que cette relation était toxique et que peut-être c'était juste moi qui l'aimais plus, mais que du coup c'était quand même moi la méchante dans l'histoire.
C'est fou parce qu'elle arrive à se torturer elle-même même après être séparée. C'est important parce que je pense que vous êtes tellement pas la seule, Manon, à être dans ce comportement là et de tellement vous êtes en train de vous tuer. Elle se tue franchement à se dire non mais c'est peut-être moi et c'est pas moi et c'est lui et peut-être c'est ma
Mais ouais. C'est très énergivore. Non, mais c'est très énergivore parce que ces personnes sont vampirisantes. C'est ça, en fait. Bon, je ferai une émission sur l'emprise pour expliquer vraiment comment ça se fait, comment ça agit et pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir facilement. C'est vraiment ce côté d'être face à quelqu'un qui nous déstabilise tout le temps.
Point, ouais.
Comme elle disait tout à l'heure, bon, il faut que je range, mais finalement, je fais du bruit, je me fais crier dessus. Et voyez, c'est quelquefois, selon la relation toxique, si on parle en termes de ces manipulateurs-là, ils nous retournent vraiment le cerveau. C'est-à-dire, on sort d'une telle relation, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime plus, ce qu'on doit faire.
Quand on se dit qu'on n'a plus de sentiments, c'est terminé. Il n'y a plus à se prendre la tête quelque part. Bon, même s'il y a encore des choses qui nous relient à la personne avec qui on était, on n'est pas quand même des robots. C'est pas hop, stop, off, non. Et c'est fini. Mais elle est encore en train de se torturer l'âme, en quelque sorte, notre Manon.
Alors, j'en dirais aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, Manon. Quand elle disait ça, c'était
déjà qu'elle arrive à en parler.
Oui, sinon là je me serais pas permis de lui en parler. C'est qu'il y a eu la rupture, il y a eu la prise de conscience et il y a eu cette emprise qu'il a fallu identifier pour pouvoir s'en sortir. Mais effectivement, malheureusement, c'est pas en 24-48 heures, comme vous dites, dès lors qu'on quitte quelqu'un avec lequel on a une emprise, ça met des semaines voire des mois, hein. Quelquefois des personnes des années, mais c'est très très long à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et pourquoi j'ai besoin de le voir, de le recontacter alors que je sais qu'il est mauvais ou qu'elle est mauvaise pour moi. C'est très compliqué à vivre.
Et oui, franchement, oui, parce que on sent que dans vos mots, Emma, vous êtes avec vous êtes là, vous êtes consciente de ce que vous ressentez, vous n'avez plus de sentiments, mais en même temps vous êtes en train de vous dire, peut-être c'est moi qui mal agis, peut-être si j'avais fait autrement, peut-être qu'alors notre histoire, elle aurait pu marcher ou continuer. Vous êtes quand même encore dans ça. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous en êtes où vraiment? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? ou malgré tout, vous êtes encore à vous torturer l'esprit avec cette ancienne relation? Où vous en êtes aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc à ce niveau-là, il y a plus de soucis, on va dire.
Il y a plus de retour en arrière possible, oui.
Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. C'est compliqué. C'est aussi compliqué de l'admettre. Il y a un certain aussi sentiment, je sais pas, de honte, de pas s'en être rendu compte avant, en fait.
Non, alors là, non, parce que je pense que... Oui, j'imagine, pour vous, oui, parce que vous dites « qu'est-ce que j'étais stupide ». Voilà, ça, j'imagine que vous avez dû vous le dire 1000 fois dans la tête, dire « mais mon Dieu, pourquoi je m'en suis pas aperçu avant ?» Surtout que peut-être là, dans votre nouvelle relation, vous êtes à 1000 lieues d'être dans ce schéma-là, j'imagine. Tant qu'à faire.
Ah oui,
J'espère en tout cas. Mais oui, on se dit à ce moment-là, mon Dieu, mais je pense que le plus beau travail, c'est déjà de vous être sorti de cette histoire-là. Chose que pas tout le monde, je pense, a la facilité de faire. Donc non, ne vous torturez pas plus que ça. Bravo déjà à vous d'avoir identifié le problème, d'être sorti de cette relation qui aurait pu, je pense, durer à vite éternam. Et aujourd'hui, non, bravo à vous. Et vivez surtout heureuse dans cette nouvelle relation. Oui. Qui, j'espère, vous amènera plein de belles choses, voilà, et plus cette et plus cette torture d'esprit de se dire, mon Dieu, je vais ranger quelque chose parce que j'ai rangé, je fais du bruit, ah non, finalement, j'aurais pas dû le toucher. Ah, mais vous rendez compte, ça paraît peu cher. On se dit, bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle se prend la tête. Oui, je comprends qu'elle se dit, c'est stupide, parce que peut-être des personnes qui nous écoutent diraient, mais qu'est-ce que tu te prends la tête, fille. Voilà, c'est pas, il y a pas à se prendre la tête pour des choses comme ça, non, Lys?
Ben, je veux dire, tant mieux si ne le prennent pas, ou si on se pose ces questions-là, c'est qu'on n'a jamais été sous une emprise, quoi.
Et oui.
Et tant mieux pour ces personnes-là.
Et oui, tant mieux pour ces personnes-là, on a envie de dire. Manon, mille merci avec cette sincérité qui est la vôtre, d'avoir partagé quelques minutes avec nous pour nous expliquer voilà, ce qu'est une relation et ce que peut être une relation toxique, et peut-être pour celles et ceux qui vivent une relation similaire à la vôtre, de se dire qu'il est possible déjà de s'en sortir, d'identifier la chose, le problème, et de vivre, voilà, une nouvelle vie et qui peut être heureuse comme la vôtre, je l'espère. Je croise les doigts 1000 fois pour vous. Voilà.
Merci beaucoup.
Manon, merci encore. Une belle journée à vous et plein de bonnes choses encore. Merci pour votre témoignage.
Merci Manon. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, Manon fabuleuse, vraiment, et toute pleine de douceur et de gentillesse et de bienveillance à travers ce témoignage-là. Alice, avant qu'on termine cette émission, on voit vraiment le rapport, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tous les chemins de cette relation toxique. C'est vrai qu'on peut aller vers le pervers narcissique, on peut être vers l'emprise, on peut être vers plein de mots, vraiment. Hein. En fait, presque il est le début de plein de mots, hein, cette relation toxique.
Tout à fait, vraiment. D'où l'intérêt et l'importance de l'identifier. Pour pouvoir s'en sortir.
Et avant qu'on se quitte, vous nous parliez tout à l'heure d'un fameux schéma.
Alors du triangle de Karpman. Mais pareil, je reposerai une émission spécifique justement pour parler de l'emprise. Comment, en étant victime d'un bourreau, on puisse se sentir bourreau de la victime. Et qu'est-ce qui se joue aussi dans ce rôle de sauveur? Parce que quelquefois, on se met dans une situation de victime parce que malgré soi, on a envie de sauver l'autre. Et lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui a une structure, tel qu'un pervers ou un manipulateur ou autre de haut vol, ben on y perd ses plumes.
Ah oui, là, plus que ses plumes, on l'a vu bien souvent d'ailleurs dans ce schéma-là. Alice, pour toutes les personnes, le dernier conseil, pour toutes les personnes qui seraient dans un tel scénario, mais qui se rendraient pas compte de ça, là peut-être à travers ce témoignage de Manon, et merci pour cela encore Manon, à travers ce que vous allez pouvoir dire, voilà, comment identifier, se dire on est dans cette relation-là, c'est pas nous qu'on a un problème. Alors, que ça soit sentimental, professionnel ou autre, hein, on a
tout à fait, tout à fait. C'est, alors, bien sûr que c'est facile à dire, c'est plus on est en connexion avec soi-même, plus on a la capacité d'identifier déjà ce qui se joue corporellement. Voilà, même si j'en ai marre d'une relation, même si je me sens pas très bien, même si je pense que ça fait partie du quotidien, osons-nous mettre face à face et nous demander, est-ce que ce que je vis est juste? Est-ce que ce que je vis est cohérent? Déjà, tout simplement. Ce qui fait que arriveront les questions, mais pourquoi j'accepte cette situation et pourquoi je suis si mal si, admettons, je l'aime ou si je l'admire tant, enfin, selon
je suis pas heureuse,
le domaine. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se joue pour que finalement j'ai l'impression de subir la relation, quel que soit le domaine dont on parle?
Et oui, non, parce que c'est vrai que toujours prouver à l'autre qu'on fait bien, de toujours se remettre en question, de dire qu'est-ce que je peux faire encore pour améliorer, c'est pas quelque chose de normal au quotidien, même si on nous conseille de toujours faire des efforts, de prendre, comment on peut dire.
Non, les remises en question sont nécessaires. Je veux dire, quel que soit le couple ou la relation, ça fait du bien de faire un point de temps en temps, sans forcément
de faire
que
des
soit...
concessions.
Voilà,
parfois.
C'est ça. C'est pas concession.
Mais
c'est
ça
pas
doit pas
forcément
être que dans un sens.
Non,
il est là
tout
le
à
problème.
Fait. C'est vraiment une notion d'équilibre.
D'équilibre. Et oui, ce fameux équilibre qui se joue dans les relations de couple ou de famille même aussi, parce que oui, ces relations-là, elles se jouent aussi dans le cadre familial et dans le cadre également professionnel. Alice, rappelez-nous un petit peu les coordonnées qui pourront nous permettre de peut-être vous poser des questions et nous peut-être répondre justement, de dire est-ce que je suis concernée par tel ou tel cas.
Très bien. Alors pour me joindre, mon numéro de téléphone est le 06 48 72 79 97. Donc j'ai un cabinet sur Saint-Cyr-sur-Mer et un autre cabinet sur Avignon. Et vous pouvez retrouver toute mon actualité sur mon compte Facebook, Alice le compte psychanalyste.
Et n'hésitez pas à nous réclamer les coordonnées d'Alice. Je vous garantis que même elle a la gentillesse parfois, et elle l'a fait pour pas mal d'auditeurs et auditrices, de répondre à une problématique qui peut-être pourrait être la vôtre et pouvoir aussi vous orienter vers d'autres professionnels, parce qu'Alice n'est pas là que pour faire, on va dire, publicité de son propre cabinet. Elle est là pour vous aider aussi à y voir clair dans le scénario de nos vies. Voilà, si compliqué parfois.
Tout à fait.
Alice, on se donne rendez-vous, nous, dès vendredi prochain.
Tout à fait.
Pour un
nouveau
thème.
Pour aborder, ouais, le terme, ce sera les enfants du divorce.
Ah, ça aussi, mon Dieu, quel quotidien aussi qui fait partie de plus en plus de la vie de tout à chacun. On vous dit une très belle soirée. À
de
vendredi
même,
prochain,
bon
Alice.
Week-end.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.